Et la loi, ne montre-t-elle pas précisément cette même intention? Elle qui prête également son secours à tous les membres de l'État? Et n'est-ce pas là aussi notre but dans le gouvernement des enfants, que nous tenons dans la dépendance, jusqu'à ce que nous ayons établi dans leur âme, comme dans un État, un gouvernement régulier, qui, cultivé par ce qu'il y a de meilleur en nous, devienne ce qu'il y a de meilleur en eux, le gardien et le maître de leur âme. Après quoi, nous les abandonnons à leur propre lumière. Cela est vrai. En quoi donc, et sous quel rapport, mon cher Glaucon, dirons-nous qu'il soit avantageux de commettre quelque action injuste, licencieuse ou contraire à l'honnêteté? Dût-on même, en devenant plus méchant, devenir plus riche ou plus considérable dans le monde? Sous aucun rapport. Enfin, comment prétendre qu'il soit avantageux à l'homme coupable de ne point paraître tel et de ne pas subir son châtiment? L'impunité ne rend-elle pas le méchant plus méchant encore? Au lieu que, quand le crime est découvert et puni, la partie féroce s'adoucit, la partie raisonnable redevient libre, et l'âme entière, rendue au régime du principe meilleur, s'élève, en acquérant la tempérance, la justice et la prudence, à un état supérieur à celui du corps qui acquerrait la force, la beauté et la santé, de toute la supériorité de l'âme elle-même sur le corps. Tu as raison. Tel sera donc le but auquel tout homme sensé devra rapporter toutes les actions de sa vie. D'abord, il ne fera cas que des sciences propres à élever son âme à cet état, et il méprisera les autres. Certainement. Ensuite, dans son régime corporel, il ne recherchera nullement la jouissance de plaisirs brutaux et déraisonnables. Il ne recherchera même la santé, la force et la beauté, qu'autant que tous ces avantages seront pour lui des moyens d'être plus tempérant. En un mot, il entretiendra la plus grande harmonie entre les parties de son corps dans l'unique intérêt de celle qui doit régner dans son âme. Il ne se proposera pas d'autre but s'il veut être vraiment musicien. En conséquence, il cherchera le même accord, la même harmonie à l'égard de la richesse, ou, ébloui par l'opinion de la multitude sur le bonheur, tentera-t-il de grossir son trésor à l'infini pour accroître ses maux dans la même proportion? Non, je ne le pense pas. Mais plutôt, il aura toujours les yeux sur le gouvernement de son âme et prendra garde d'en déranger l'équilibre, ou par l'opulence ou par l'indigence. Tel est le plan de conduite qu'il s'efforcera de suivre dans les acquisitions et les dépenses qu'il pourra faire. À merveille, Socrate. Considérant les honneurs sous le même point de vue, il ambitionnera, il goûtera même avec plaisir, ceux qu'il croira pouvoir le rendre meilleur. Quant à ceux qui pourraient altérer l'ordre qui règne dans son âme, il les évitera, soit dans ses relations privées, soit dans sa vie publique. Mais si cette pensée le préoccupe, il ne voudra donc pas se charger de l'administration des affaires? Si fait, je te jure, dans sa république à lui. Mais il ne sera peut-être pas aussi bien disposé à l'égard du gouvernement de sa patrie si quelque coup du ciel ne lui vient en aide. Je t'entends. Tu parles de cette république dont nous avons tracé le plan et qui n'existe que dans nos discours, car je ne crois pas qu'il y en ait une pareille sur la terre. Du moins, peut-être en est-il au ciel un modèle pour quiconque veut le contempler et régler sur lui son âme. Au reste, peu importe que cette république existe ou doive exister un jour. Ce qui est certain, c'est que le sage ne consentira jamais à en gouverner d'autre que celle-là. Cela est très vraisemblable, Socrate.